Chapitre 16. Dans la toile d'araignée. Un matin, par cette jolie et transparente lumière d'été qui donne de si délicieuses nuances mauves, roses et vertes à la mer, alors que l'Atlantique sortait peu à peu des brumes et des vapeurs blanchâtres servant de transition entre les ténèbres de la nuit et la clarté aveuglante du jour embrasé par le soleil, Parfait l'Espervier était venu errer à travers les dunes dominant la plage de Penhat pour y combiner plus à l'aise la machination qu'il préparait. Désormais, sa conviction était faite. Il existait bien réellement une conspiration ignorée de tous, absolument mystérieuse, élaborée d'abord contre le premier consul, continuée maintenant contre l'empereur. Et il lui semblait que, ayant grandi en puissance, en autorité, de Bonaparte devenu Napoléon, de simple oiseau de proie transformé en aigle impérial, le maître tout-puissant de la France grandirait aussi en générosité, en largesse pour récompenser le serviteur fidèle qui aurait dévoilé et fait punir ses ennemis. Il avait donc tout à y gagner. Bien que Corentine n'eût voulu appuyer d'aucune révélation nouvelle l'aveu fait par Cornélie Troadec, la nuit où l'Espervier l'avait fait évader, aveu que du reste elle ignorait, cependant ces quelques mots jetés aux policiers dans une explosion de gratitude, ces noms soigneusement classés dans sa mémoire, lui avaient suffi pour commencer à disposer la toile dont les premiers fils avaient été fixés aux parois de l'abri de la tempête le soir même de son arrivée à Camaret et dont il comptait envelopper ceux qu'il soupçonnait. Avec une patience de sauvage relevant une trace d'ennemi ou de gibier, il avait successivement suivi la piste de chacun d'eux, s'informant habilement non pas seulement de leurs faits et gestes actuels, mais aussi de leur passé, et d'après leur existence d'autrefois, reconstituant leur vie présente. À chaque découverte nouvelle, à chaque petit fait venant corroborer ses observations et donner une probabilité de plus à ses hypothèses, il se frottait joyeusement les mains et s'exclamait avec un petit rire gouailleur et satisfait de félicitations pour sa propre science. « Hé hé, monsieur le chevalier, m'est avis décidément que votre seigneurie eût fait un merveilleux archéologue, un antiquaire hors ligne. Que vous sauriez fameusement reconstituer l'histoire à l'aide des vieilles pierres et des vieilles poteries, vous qui êtes arrivé à établir si nettement la culpabilité de ce Mathieu Plourac et de cet abbé Judicael Le Couat, voire même de la ténébreuse Monique Kervella, grâce à ce que vous avez appris de leurs exploits d'il y a des années et des années. Ce matin-là, surtout, il semblait ravi, ne tarissant pas d'éloges sur lui-même, se décernant compliment sur compliment. Il finit par s'écrier à haute voix dans la solitude des dunes. « Ce n'est pas cet imbécile de Ridolin, ce lourdeau de Ridolin, qui eût su mener une affaire comme celle-là. Ah, si le préfet de police en a un certain nombre de son espèce là-bas, je ne lui donne pas beaucoup de temps pour que l'empereur remercie M. Dubois de ses services et reprenne mon excellent patron. Ce n'est pas Fouché qui eût envoyé en Normandie et en Bretagne pour une besogne de finesse, de ruse, de souplesse, un gaillard qui n'était bon qu'à des coups de violence et de force. Et encore, jolie aide, sa force. À quoi lui a-t-elle servi? Je suis presque content d'être délivré de lui. » Mais à mesure que ses idées revenaient sur ce sujet, elle se rembrunissait, car malgré toute son adresse, il lui avait été impossible de savoir ce qu'était devenu son ancien compagnon et d'avoir le secret de sa disparition si soudaine, si complète. Souvent, il avait réfléchi à cela, rapprochant de la phrase insinuante prononcée par tonton Mao, phrase commentant la soi-disant imprudence qu'aurait commise l'agent de Dubois en se rendant seul aux grottes du Toulinguet un jour de grosse marée, les mots bien significatifs par lesquels Cornélie l'avait signalé comme un espion dont il fallait se méfier. Le pêcheur avait-il parlé d'Étienne Ridolin au présent ou au passé? La phrase exacte ne revenait pas à la mémoire de l'Espervier, mais il n'y songeait jamais sans un petit frisson à fleur de peau, car il savait avec quelle férocité implacable, avec quelle rapidité et quelle adresse aussi, les conspirateurs royalistes se débarrassaient des individus convaincus ou même simplement soupçonnés par eux d'espionnage. Ridolin avait-il été tué? Était-il enfermé dans quelque mystérieux cachot? Ou bien, las de son séjour à Camaret, ainsi qu'il l'avait laissé voir à plusieurs reprises, avait-il tout simplement regagné Paris? Ce qui aurait pu le confirmer dans cette dernière pensée, c'est qu'aucune lettre n'arrivait plus à l'abri de la tempête à l'adresse de M. Étienne. Il ignorait alors que cela provenait du fait de Ridolin lui-même qui, pensant partir prochainement, avait annoncé à ses chefs ce départ comme incessant et recommandé de ne plus rien lui expédier à Camaret. L'Espervier eut eu un moyen facile d'apprendre quelque chose, et grâce à cette précaution de l'agent de Dubois, il eût été confirmé dans l'hypothèse d'un départ subi en écrivant lui-même à la préfecture de police ou en se renseignant auprès d'amis sûrs. Mais si, selon son espoir, sa présence en Bretagne était ignorée en haut lieu, il désirait qu'on ne la connût pas. Seul son patron Fouché en avait connaissance, et même vis-à-vis de lui, en ce moment, il voulait ne plus donner signe de vie pour arriver brusquement avec sa découverte de la conspiration et triompher d'autant plus brillamment que personne ne s'attendrait à ce coup d'éclat. C'était une des raisons qu'il avait si violemment mise en colère contre la maladresse de Ridolin, faisant arrêter bruyamment les trois decks, au risque d'effaroucher les véritables auteurs de l'attaque de la diligence et d'empêcher ainsi les autres conspirateurs, devinés par lui, de venir se faire prendre dans la toile qu'il tissait lentement, araignée prudente et patiente, ajoutant fil à fil depuis si longtemps. Oh, ce Ridolin! Il ne décolérait pas contre lui, même encore en cette matinée radieuse, au point de jeter aux échos de ces montagnes de sable, mouvementées comme les vagues de la mer, son nom, flagellées d'épithètes ironiques ou méprisantes. Ayant machinalement atteint l'extrême limite des dunes vers l'océan, il dominait la plage de Penhat. Il remarqua que, justement, la mer s'étant retirée très loin, on pouvait facilement visiter les grottes. Quoique les ayant souvent vues, poussés par un sentiment inconscient dont il ne chercha pas à se rendre compte, il dégringola lestement la falaise, s'engagea sur la grève et se dirigea vers ces grottes du Toulinguet. Tout en marchant, il distingua des traces dans le sable humide et fit, reconnaissant des empreintes de sabots, « Tiens, il y a déjà des promeneurs, sans doute des gens du pays. » Et il reprit, songeant à son ancien camarade, « Pas de danger de grosse lame aujourd'hui, la mer est comme de l'huile. » Il venait de contourner l'énorme pan de la muraille rocheuse qui termine le côté droit de la plage et immédiatement derrière lequel se creuse la plus considérable de ces immenses cavernes, véritable voûte de cathédrale, quand une exclamation attira son attention et que d'un bloc isolé couvert de moule, il aperçut deux hommes courbés comme pour examiner quelque chose. Il les reconnut. « Les gardes-côtes Poulmic et Le Gall, que diable font-ils là? Ils auront trouvé une épave ?»« Une épave? Oh oui, lugubre et lamentable épave !» Poussé doucement par une dernière lame qui l'enveloppait de sa frissonnante frange d'écume, la roulant, la déroulant en souple et mouvant linceul, un corps humain gisait, à demi soulevé par instant, à demi enseveli dans le sable inconsistant. Plus de figure, plus de traits, un rictus sinistre des dents et la cavité béante des orbites, sans yeux, sans paupières. C'était tout ce qu'on distinguait dans l'étroit embrassement des algues qui l'enlaçaient, lui faisant un suaire merveilleux de toute la flore de l'océan. Des jours, des semaines, des mois, le malheureux avait dû flotter à travers l'infinie profondeur de l'Atlantique, glissant de vague en vague, tantôt bercé, tantôt englouti, joué des marées et des tempêtes, proie des poissons, avant de venir échouer là, presque sans forme, impossible à reconnaître, devenu quelque étrange plante marine, quelque monstrueux coquillage inconnu, avec ses lambeaux de vêtements n'en serrant plus qu'un invisible squelette. Mais l'Espervier s'était baissé à son tour. Il jeta un cri. « Ridolin ! Étienne Ridolin !» Aux tiges de ses bottes, dont la semelle avait disparu, à une ceinture de cuir à boucles très spéciales encore fixée à la taille, il venait de reconnaître l'agent de Dubois. Lui, c'était bien lui. Il eut un moment de saisissement en le retrouvant là, au moment où déjà plus confiant, presque rassuré, il le supposait décidément reparti, retourné à Paris. Tout de suite, sans hésitation, sans s'arrêter à cette hypothétique possibilité d'un accident dans les grottes, il se dit très bas, d'une voix sourde, où frissonnait une secrète et profonde épouvante. Ils l'ont exécuté. Puis, un sursaut, une révolte contre sa défaillance passagère, un éclair sous les lourdes paupières un instant retombé sur ses yeux vifs et, la main tendue au-dessus du cadavre, il promit d'un muet serment « Je te vengerai, Ridolin !» De même qu'il avait immédiatement conclu à l'assassinat, il décida, sans crainte de se tromper, quel était le meurtrier, en ajoutant « C'est le chouan qui a fait le coup, comme il a dirigé l'attaque de la diligence. Allons, tout se paiera en même temps. Cette fois, plus moyen d'attendre, de patienter, cela deviendrait dangereux pour moi. Bah, quand je tiendrai celui-là, le reste de la bande viendra donner de lui-même en pleine toile. Je m'arrangerai pour qu'il en soit ainsi. » Il se redressa, tandis que les deux gardes-côtes le regardaient, étonnés et émus, se souvenant de ce colporteur gigantesque qu'ils avaient si souvent vu en compagnie du chevalier. Celui-ci leur dit « Vous allez vous procurer quelques toiles, une voile, un prélard pour relever ces tristes restes, afin qu'on leur donne une sépulture convenable. Moi, je vais veiller auprès d'eux en attendant. » Le jour même, grâce aux soins pieux de l'espervier, le corps d'Étienne Ridolin, reconnu par la municipalité de Camaret, était enseveli dans le petit champ de repos qui domine le port et fait face à la mer. En apprenant cette lugubre découverte, Corentine Troidec avait terriblement pâli, mais parvenant à surmonter son émotion, elle avait déclaré, sans que le chevalier protestât par un mot, « C'est si dangereux, cette plage de Pénate et ces grottes du Toulinguet. Il y en a plus d'un qui a péri en cet endroit par quelques lames de fond. » Le lendemain, après avoir couru tout le reste du jour à travers le pays, l'espervier se faisait conduire à Brest. Cette fois, il était résolu à ne plus conserver son incognito vis-à-vis des autorités brestoises et à user de tous ses pouvoirs. L'intérêt personnel, l'instinct de la conservation, lui dictait la conduite qu'il avait à suivre. Il lui fallut avant tout se débarrasser de l'ennemi le plus redoutable pour lui, c'est-à-dire de ce Mathieu Plourac, au sujet duquel il n'avait plus la moindre illusion et qu'il jugeait capable de tout. Pour les autres, on verrait plus tard. Peut-être même l'arrestation du Tampilou provoquerait-elle quelques découvertes importantes, en forçant ses amis, soit à d'imprudentes démonstrations en sa faveur, soit au contraire à prendre des précautions qui indiqueraient suffisamment quelle était leur part de complicité. Ce que l'espervier ignorait, quand il accablait l'infortuné Ridolin de son mépris et de ses railleries rétrospectives, c'est que le plan qu'il suivait en ce moment avait certains points de ressemblance avec celui que s'était proposé de suivre le malheureux agent de Dubois. En effet, Ridolin, lui aussi, avait parfaitement deviné l'importance de la culpabilité de Plourac. Sa maladresse avait simplement consisté à vouloir s'assurer des complices parce qu'il les tenait sous sa main avant de chercher, par tous les moyens possibles, à s'emparer du principal auteur de l'attentat. Ici, plus perspicace, l'agent de Fouché agissait d'une manière diamétralement opposée. D'abord mettre le plus dangereux des conspirateurs dans l'impossibilité de nuire. Sans doute, il eût bien désiré abattre sa main sur l'abbé Judicaël Lequat, sur le lieutenant Jean-Marie Yanou, même sur Alcide et Loïs Troidec, en vue d'une combinaison particulière, ces deux derniers devant lui être très utiles, et encore sur Monique Kervella. Mais il lui semblait, avec juste raison, que tant qu'il n'aurait pas fait arrêter Mathieu Plourac, sa propre existence courait de grands dangers, et qu'il rencontrerait plus de difficultés pour mener à bonne fin ses projets. Puis, il y avait une grave lacune dans son affaire. Il lui manquait cette demoiselle de Couette-Rozec qu'il n'avait jamais pu rencontrer, jamais pu apercevoir. Quelque adresse qu'il eût mise à suivre ses traces, traces vagues et troublantes, depuis qu'une phrase du recteur Judicaël Lequat, surprise au Ménès-Bré, lui avait à la fois révélé son existence, son nom et appris son arrivée en France. Son intelligence de policier, rompue aux finesses du métier, lui avait immédiatement fait comprendre que c'était elle, cet émigré rentré en France, qui devait être l'âme de la conspiration, si réellement il y avait conspiration, et que les autres, instruments plus ou moins grossiers, dévouements plus ou moins rudes, n'agissaient que d'après ses inspirations. Ce qui lui semblait cependant plus difficile à admettre, c'était comment un officier de la nature de ce Yanou pouvait se trouver mêlé à un complot de ce genre, lui, républicain fervent, quand tous les autres partisans étaient assurément des royalistes ardents, des dévoués à la monarchie et à l'autel. Il y avait là une anomalie dont il n'avait pas encore pu pénétrer l'énigme et dont il espérait découvrir le mystère au sein de cette ombre étrange, fantastique, que paraissait répandre autour d'elle la vieille guérisseuse de Kerlock, cette chauve-souris que tous prétendaient folle et qu'il soupçonnait de jouer un rôle dont il se refusait à être la dupe. Toutes ces pensées bouillonnaient dans son cerveau quand il pénétra dans Brest, amené de Camaret par une débarque de pêche du petit port. Avant de se rendre chez le commissaire général de la police, il se promena d'abord à travers la ville, indifférent et flâneur en apparence, fidèle à son rôle de voyageur, de badaud, mais l'œil au guet, l'oreille aux écoutes, ne perdant aucune occasion de s'instruire par lui-même, et sachant par expérience quelle part énorme le hasard apporte à la subtilité et à l'intelligence du meilleur policier. Comme il avait quitté Camaret de très grand matin à l'aube, pour profiter de la marée, du courant et pouvoir passer facilement le goulet, il commençait à sentir le besoin de se restaurer. Il se souvint alors que Corentine Troadec lui avait autrefois indiqué l'adresse d'un débit de la rue de la Loi, cette rue qui aboutit au pont jeté sur la Pinfel et dont la patronne, camarétoise d'origine, un peu parente des Troadec, donnait au besoin à manger. Il ne se rappelait plus le nom de cette femme et venait de traverser le parc Armézo, terrain vague avoisinant le château ou fort la Loi, quand une ancre gigantesque peinte au-dessus d'une boutique attira ses regards. En lisant les mots tracés en exergue, le souvenir lui revint tout à coup et il fit, avec une exclamation de plaisir, « L'ancre du salut, c'est justement cela. On dirait que je suis en veine aujourd'hui et que la journée va m'être favorable. » Était-ce un pressentiment réel ou voulait-il ainsi forcer la chance? Le fait est qu'il entra tout guilleret dans le débit et se vit accueillir de la façon la plus cordiale par la veuve du quartier maître, dès qu'il se fut recommandé de Corentine, en s'annonçant comme étant le chevalier de l'Espervier. Il n'eut besoin d'user d'aucun artifice pour faire bavarder la patronne, ravie de pouvoir causer à cœur ouvert avec quelqu'un arrivant de Camaret. Elle questionna. « Paraîtrait qu'il y en a eu des histoires, ce pauvre Cornélie, un si brave homme. Faut-il qu'il y ait du mauvais monde pour l'avoir dénoncé tout de même, n'est-ce pas, monsieur le chevalier ?» À ces paroles, l'Espervier dressa l'oreille. Toute son âme policière fut mise en émoi par le ton qui soulignait les mots, et il n'hésita pas à tendre sa ligne amorcée d'un discret et engageant. « Il a été imprudent aussi, nous avons tant d'ennemis, nous autres. » Elle appuya vivement, mordant frénétiquement à cet hameçon perfide. « Bien sûr, c'est ce que je lui disais toujours quand il venait ici pour s'entendre avec son cousin, le lieutenant Yanou. Plus d'une fois, j'ai tremblé en les entendant parler de cette grosse affaire qu'ils manigançaient ensemble. Il y a des mouchards partout, et le terrible, c'est qu'on ne sait jamais si on ne bavarde pas avec l'un d'eux, tellement ils savent bien s'y prendre. Ah, c'est que Brest est fameusement surveillée depuis un an que le premier consul y a installé ce commissaire général de la police. Un homme pas commode du tout. » Il souriait, faisant ses yeux les plus doux, approuvant de la tête, tandis qu'elle allait toujours intarissable. « Pensez qu'on est tout le temps dans les transes, surtout depuis qu'on a condamné à mort et exécuté le même jour ce nommé Marchand, accusé d'avoir incendié en pleine Pinfel le vaisseau Le Patriote, amarré non loin du milieu de la Corderie, et de plus d'avoir autrefois porté les armes contre la République. Et puis, cette histoire de Paris, ces généraux en prison, Pichegru, Moreau. Oh, celui-là, surtout, un breton que Jean-Marie Yanou n'en décolère pas quand il en parle. » L'Espervier avait fait un léger mouvement, Ses lourdes paupières se rabattirent vivement sur ses prunelles pour en atténuer l'éclat, et une joie délicieuse coula au fond de son cœur. Il songea. « Le général Moreau, comment n'y avais-je pas pensé ? J'y suis. La voilà la corrélation que je cherchais. C'est celui qui a pu unir l'émigré et l'officier patriote, la royaliste et le fervent républicain dans la même haine contre Bonaparte, contre l'empereur. Hé hé, la brave femme ne se doute pas du service qu'elle vient de me rendre. » Du reste, maintenant, elle se perdait dans des verbiages sans intérêt pour son interlocuteur, parlant de la misère du temps, de son commerce, d'un tas de choses qui n'avaient plus aucun rapport avec les Troadec et Yanou. Il essaya de la ramener sur le terrain brûlant en demandant « On aime beaucoup Moreau à Brest, n'y a-t-il pas des parents ?»« Deux frères, monsieur le chevalier, l'un capitaine de frégate, le ministre de la marine l'a envoyé à Morlaix dans sa famille. » L'autre, receveur des contributions, il a été transféré à Quimper, on les a éloignés. Ce fut tout ce qu'il put lui arracher, soit qu'elle eût conscience d'avoir déjà trop parlé, soit qu'elle n'eût plus rien à dire. Des marins, des soldats, des ouvriers envahissaient le débit. L'espervier expédia lestement son déjeuner et quitta l'établissement. Il allait poursuivre sa promenade à travers Brest, en attendant l'heure de se présenter chez le commissaire général de la police, quand un jeune officier d'artillerie de marine passa rapidement à quelque distance et, après un regard jeté autour de lui, poussa la porte de la boutique de la Camarétoise. L'agent de Fouché se retourna vivement, tombant en arrêt. « C'est lui, Jean-Marie Yanou, diable, il n'était que temps pour moi de sortir. » Peut-être ma conversation avec la patronne n'eût-elle pas été de son goût. Tout en se faisant cette réflexion, il entra dans un débit qui faisait à peu près face à l'ancre du salut et s'y installa près de l'entrée de manière à surveiller l'officier, attaché de savoir ce qu'il venait faire là et pourquoi il avait pris tant de précautions avant d'entrer. Au bout de quelques instants, il le vit ressortir, accompagné de deux hommes vêtus comme les ouvriers de l'arsenal, et après avoir échangé un regard d'entente avec eux, les quitter pour se diriger tout seul vers le port. Eux prirent le même chemin. Il se hâta de les suivre à distance suffisante pour ne pas se faire remarquer, car il constata qu'ils semblaient très préoccupés de ne pas attirer l'attention. Au lieu de continuer vers la Pinfelle, ils remontèrent isolément avec l'allure de flâneurs, par les terrains vagues du parc Armézou jusqu'à ceux du parc Arcornou, et disparurent successivement tous les trois, l'officier d'abord, les ouvriers ensuite, derrière une sorte de clôture en planches qui entourait des terres défoncées, avoisinant le cours de la Réunion. D'un pas de promeneur, l'espervier poursuivit sa route, s'arrêtant çà et là pour admirer un point de vue, un édifice, en touriste visitant la ville de Brest. Un coup d'œil lui avait permis de se rendre compte de l'endroit précis où se trouvaient réunis en ce moment les trois hommes qu'il surveillait sans en avoir l'air, et de s'assurer que, adossés intérieurement à la partie de la cloison faisant face à la rade, ils semblaient ne s'inquiéter que des gêneurs qui pourraient venir les déranger par l'endroit leur ayant servi à pénétrer dans cette espèce d'enclos. Un gros arbre se trouvait justement à proximité de la clôture contre laquelle ils se tenaient et fournissait un excellent point de repère. Ce fut vers lui que l'agent se dirigea, après une courbe savante, qui le ramena exactement à leur hauteur, séparé d'eux seulement par cette fragile barrière. De grandes affiches, placardées contre les planches, obstruaient complètement les interstices, et si, grâce à cela, on ne les voyait pas, eux non plus ne pouvaient pas voir. De son glissement souple et ondulant de furet en chasse, l'espervier arriva aussi rapidement qu'il le put et s'installa d'abord, jambes écartées, bras derrière le dos, comme pour lire les imprimés. C'étaient les vieilles affiches portant le rapport du grand juge qui relatait l'arrestation de Georges Cadoudal et de ses complices et la proclamation du préfet Caffarelli qui rappelait l'exécution de ce marchand dont la patronne de l'encre du salut avait entretenu l'agent quelques instants auparavant. Barbouillée, demi-lacérée, elle portait encore en travers diverses inscriptions, parmi lesquelles la plus nette était « Vive Moreau !» Le policier souriait à cette coïncidence quand, Derrière la clôture, les voix s'élevèrent. Feignant d'être fatigué, il vint s'adosser aux planches, son oreille fine presque appliquée contre la mince cloison de bois, et la conversation lui arriva si nette, si distincte, qu'un voluptueux frisson de satisfaction caressa ses épaules et son dos. D'abord, il ne comprit pas grand-chose aux propos tenus, et il crut s'être trompé. On parlait de discipline, de principes républicains, de haine des Anglais. Cependant, ces deux ouvriers, d'anciens marins sans doute, et cet officier ne pouvaient pas être venus se cacher là pour exprimer mystérieusement leur patriotisme, ni même leur amour de la République. L'Empire était trop récent pour que ce fût déjà un crime de parler encore avec tendresse de la République. Mais le nom du général Moreau arriva bientôt. Et tandis que, la tête collée contre les syllabes protestatrices du vive Moreau griffonnées en travers de l'affiche, l'Espervier écoutait, il entendait comme l'écho de cette protestation se développer et s'enfler de l'autre côté du mur de planches. Les deux années de prison transformées en bannissement, cette facilité de partir pour l'Amérique donnée par l'empereur à son ancien camarade, étaient présentées comme des actes dus à la peur que Bonaparte avait du vainqueur de Hohenlinden au remords de l'avoir fait arrêter et juger, et la conclusion était que, plus que jamais, le moment était venu de soulever le pays contre le tyran. Quant à la date de l'action, à la manière dont on procéderait, il ne pouvait en être question avant que le jeune officier en eût conféré avec ses amis de la presqu'île de Crozon. Yanou termina en disant « Vous et vos camarades, tenez-vous prêts. C'est Han Askelgrohen qui vous préviendra. » Ce fut tout. L'Espervier entendit les pas des conspirateurs s'éloigner et il quitta son poste pour ne pas se faire surprendre. Tout en se dirigeant vers la demeure du commissaire général de la police, il se répétait « Han Askelgrohen, c'est du breton, bien sûr. Mais que signifie ce breton? Cependant, ce n'est pas la première fois que j'entends prononcer ces syllabes sauvages. Par exemple, où et quand les ai-je entendus? Je l'ignore. Enfin, allez, mes petits amis, moi, je vais toujours faire empoigner et mettre à l'ombre le Tampilou. Une fois débarrassé de celui-là, je m'occuperai de vous. Hé, 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 que le commissaire général m'aide un peu, et je me charge de lui fournir une fameuse affaire, plus belle que toutes celles qu'il a déjà pu avoir. » Le soir même, la barque qu'il avait amenée le remportait tout Guilleret vers Camaret. Il chantonnait, entremêlant son air de phrases de victoire. « Demain, le Mathieu Plourac sera arrêté, voilà qui est fameux. Quant au reste, cela marchera tout seul. » Une réflexion l'arrêta. « Diable, j'allais oublier, les satanés mots bretons. Le patron de la barque doit savoir ça. » Il se pencha vers le pêcheur. « Hé, camarade, que signifie Han Askelgrohen ? La chauve-souris ? » Une lumière flamba dans les yeux aigus de l'Espervier qui fit à mi-voix. « La chauve-souris, c'est vrai, je me souviens. Ce sont les gardes-côtes qui ont déjà prononcé ce nom en breton devant moi. Décidément, tout est là-bas, à Kerloc. Cette chauve-souris, c'est certainement le pivot de l'affaire. »